Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Eh bien, nous allons continuer à parler des Indiens d'Amérique, de ceux qui avaient des plumes, qu'on a toujours d'ailleurs pour certains d'entre eux. Alors, quand je vous ai quitté la semaine dernière, je vous ai parlé de femme chef qui était une guerrière. Et on a cité d'autres cas de femmes guerrières, mais elles ont toutes été des exceptions. En effet, en règle générale, la femme se consacrait à ses tâches domestiques, aux besoins des membres de sa famille et aux nécessités sociales du campement. La cueillette des plantes sauvages était une des corvées les plus ingrates. Les femmes la remplissaient d'ailleurs avec fierté. La femme d'âge mûr était une véritable encyclopédie des plantes sauvages à employer en teinture, en senteur ou en médecine. Certaines de ces herbes étaient à fumer ou à mélanger au tabac. D'autres jouaient un rôle important dans l'alimentation. La plus utilisée de ces plantes était sans conteste le navet de prairie, qui était appelé par les Français pomme blanche ou pomme de terre indienne par les Anglais. Il poussait dans les plaines et se cueillait au printemps. Souvent, quatre fois gros comme un œuf de poule, il se consommait cru ou sous forme de soupe ou de ragoût. Coupé en tranches et séché au soleil, ce légume pouvait se conserver. Lorsque les femmes et les jeunes filles partaient dans la prairie en quête de navets, elles effectuaient cette cueillette en petits groupes et considéraient parfois l'expédition comme une partie de plaisir. Souvent, à leur retour au campement, elles s'engageaient dans un jeu brutal, mimant une attaque, comme si les hommes du camp étaient des ennemis. Devant le camp, elles rangeaient leurs racines en pile et prenaient position derrière ce muret. En guise de munitions, elles ramassaient des bâtons et des bouses de bison, et alors, une des femmes agitait sa couverture en poussant un cri de guerre provocateur. En l'entendant, les hommes du camp, qui étaient d'humeur à plaisanter, sortaient en hâte de leur demeure et se préparaient à les attaquer. Certains se saisissaient de sacs de cuir cru comme boucliers de fortune, puis ils chargeaient, en criant, les positions qui étaient occupées par les femmes. Quelques-uns chevauchaient de vieux chevaux de bât. Une pluie de bâtons et des trompes de bouses de bison s'abattaient sur les agresseurs. La règle du jeu permettait à tous ceux qui disposaient d'un brillant palmarès guerrier ou qui avaient perdu un cheval au combat de glaner quelques navets pour leur propre compte, à condition toutefois de réussir à franchir le barrage sans être atteint. Cris et rires fusaient parmi les nombreux spectateurs de ce jeu qui, au terme d'une rude journée de labeur, constituait une joyeuse détente. Les travaux décoratifs réalisés par les femmes Cheyennes étaient l'objet de louanges, à l'égal des exploits guerriers des hommes. Et la femme parlait de ses ouvrages artistiques avec la même emphase que le guerrier de ses prouesses. Les femmes spécialisées dans une discipline se groupaient en sociétés, dont notamment celle des brodeuses aux piquants de porc-épic. Elle formait des cercles très fermés qui donnaient de l'atelier de couture et de l'association. Non sans cérémonie, elles accomplissaient la tâche sacrée de décorer la peau à l'aide de piquants, de porte-épics ou de plumes. Quand une jeune femme s'inquiétait au sujet d'un proche parent malade ou de son mari qui partait à la guerre, il lui arrivait de faire un vœu. Si les circonstances tournaient bien, elle entreprenait de broder une couverture en peau destinée à un prêtre, un homme médecine ou un guerrier. Elle se rendait auprès d'une personne âgée faisant partie de la société des brodeuses du haut piquant de Portépic, lui faisait un don et sollicitait ses conseils. Pour commencer, la vieille femme l'instruisait sur la façon de donner un festin en l'honneur des membres de la société. Un crieur âgé annonçait l'événement au campement. Ses femmes se rassemblaient pour le festin. Mais auparavant, chacune énumérait les objets et vêtements de peau qu'elle avait décorés au cours des années précédentes. La néophyte recevait alors les instructions relatives aux travaux d'aiguille et aux cérémonies de la société. Les festivités tenaient lieu d'initiation, mais au cours des jours suivants, la vieille femme complétait l'instruction de la novice et l'aidait à réaliser son projet de broderie. Une fois celle-ci exécutée, la postulante pouvait entrer dans une des institutions les plus respectées qui soient. La société des brodeuses ou piquantes porte-épique avait un rôle important, car elle honorait les travaux de patience et un artisanat particulièrement élaboré. Grâce à cette organisation, les motifs décoratifs et les méthodes de couture étaient transmis de génération en génération et permettaient à la femme d'acquérir un certain prestige dans son clan. Les hommes eux aussi participaient à l'artisanat. De leurs mains sortaient les tambours, les objets se rapportant aux diverses cérémonies, les pipes, les coiffures de guerre, les boucliers, les lances, les arcs et les flèches. Certains artisans se spécialisaient dans la fabrication d'objets précis, mais tout homme, ou presque, devait savoir confectionner son arc et ses flèches. Pour fabriquer des flèches, par exemple, un Sioux taillait de robustes rameaux dans des groseilliers, des cerisiers ou des amélanchiers à grappes ou tout autre bois convenable. Il les attachait en faisceau et attendait que les branches sèchent. La bonne longueur d'une flèche de Sioux correspondait à la distance séparant le coude de l'extrémité du petit doigt, plus la longueur de ce même doigt. Une fois le bois bien sec, l'artisan le ponçait en l'obligeant à passer à travers un conduit formé de deux morceaux de grès creusés d'une rigole, maintenus l'un contre l'autre, dans sa paume. Pour voir si la flèche était bien droite, il la bornoyait. Il éliminait les courbes en infléchissant le bois après l'avoir enfilé dans un trou percé dans un morceau d'os ou de corne. Pour cette opération, il graissait ou chauffait parfois le bois. Puis, à l'aide d'un instrument effilé, en os ou en silex, il dessinait le long de la flèche de fins zigzags. En théorie, ces marques en forme d'éclair permettaient à la flèche de voler plus vite et de suivre un trajet rectiligne. Mais en pratique, elle évitait probablement le gauchissement. À une extrémité, dans une fente aménagée à cet effet, on fixait à l'aide de ligatures et de colle une pointe qui, au XIXe siècle, était le plus souvent en fer et avant en pierre. À l'autre bout, l'empennage était réalisé grâce à trois plumes fendues. de dindon ou de busard. De bonne qualité, la quenelle nécessaire à la finition de ce travail s'obtenait en faisant bouillir des sabots de bison mêlés à certains morceaux de peau. Si chez les Indiens des plaines, l'artisanat attirait la considération, le vrai prestige s'acquérait surtout grâce à la guerre ou aux raids entrepris pour ramener des chevaux ou effectuer en représailles. Ces opérations pouvaient être menées pour défendre le territoire tribal ou l'agrandir. La guerre n'était ni un jeu, ni un sport, mais répondait à des préoccupations très sérieuses. Le fait d'arborer la chevelure de l'ennemi ou de l'accrocher comme trophée était un symbole qui montrait l'importance qu'on lui accordait. Ventre pourri, c'était le nom d'un chef croc du début du 19e siècle, avait fait orner sa chemise, ses jambières et même sa couverture en peau de bison, des chevelures des ennemis que ce maître de l'embuscade et du raid avait tués au cours de ses combats. En 1873, Thomas Battet, un Quaker, qui était employé comme instituteur par les services du Bureau américain des affaires indiennes, fut invité à déjeuner dans le tipi d'un vieux guerrier Kiowa. Battet était assis au fond de la tente quand il sentit que quelque chose lui caressait doucement l'oreille. Il s'agissait d'une énorme masse de cheveux humains qui pendaient, accrochés à une perche du tipi. Après le repas, il eut l'occasion d'étudier plus attentivement cette preuve des prouesses de son hôte, et il en donna plus tard la description. Les scalps avaient été nettoyés et étirés alors que la peau était encore fraîche et montés sur de petits cerceaux de 10 cm de diamètre. Près du bord, on avait enfilé un bâton semblable à une flèche, mais un peu plus large, d'environ 60 cm de long. Ces bâtons étaient au nombre de 3, et chacun supportait une douzaine au moins de ces écœurants trophées aux longs cheveux, preuve des prouesses passées. La femme de ce brave Kiowa était une Mexicaine, capturée probablement alors qu'elle n'était alors encore qu'une jeune fille. Et Battet se demanda si les scalps de ses parents figuraient dans le lot de ces quelques 36 trophées qu'il avait eu la possibilité de contempler. Cependant, scalper ou tuer un ennemi n'était pas considéré chez les Indiens des plaines comme l'honneur suprême de la guerre. La bravoure s'établissait d'après le décompte des coups, c'est-à-dire du nombre de fois que l'on avait touché ou frappé l'ennemi de sa main ou d'une arme. Les coups enregistrés dans un campement ennemi comptaient davantage. Pénétrer au milieu des tentes de l'adversaire, avec pour toute arme un tomahawk ou un fouet, était plus héroïque que de réaliser le même exploit avec une lance ou un arc et des flèches. Mieux encore, le vrai brave pouvait porter un simple bâton. Tous les actes héroïques perpétrés face à l'ennemi comptaient. Charger tout seul une position adverse, sauver un blessé ou secourir un camarade qui n'avait plus de cheval, avoir une monture tuée sous soi, être le premier à localiser l'ennemi ou, au cours d'une embuscade, servir d'appât. Telles étaient quelques-unes des plus grandes prouesses. Moins spectaculaire que la guerre, la chasse revêtait dans la vie du Cheyenne presque autant d'importance. À l'affût ou en embuscade, il chassait les daims, les ouatipis et les mouflons des rocheuses quand il venait boire. Les antilopes étaient cernées ou conduites vers une fosse bien camouflée. Et après leur chute, un groupe de tireurs à l'arc les achevait. Pour attraper un aigle dont les plumes étaient indispensables aux parures, le chasseur se cachait dans un trou et attendait que l'oiseau tout puissant se laissât tomber sur un appât de viande. Il se redressait alors, saisissait l'aigle et le tuait à main nue. Il prenait aussi les poissons et les tortues dans des nases. L'Indien se servait aussi de sennes faites avec de la peau, des tiges de saule ou des roseaux. Mais son gibier préféré demeurait le bison, qu'il tuait à la lance ou à la flèche, même après l'avènement du fusil. Pour ce genre de chasse, il chevauchait un coursier rapide spécialement entraîné. La chasse au bison demeurait dangereuse. Un mâle, surtout en rute, et même mortellement blessé, était malaisé à abattre et se défendait autant qu'un ours grizzly cerné par des chasseurs. Désarçonné, piétiné ou encorné, plus d'un Indien perdait la vie chaque année lorsqu'il était pris au sein d'une horde galopante ou qu'il subissait l'attaque d'une bête rendue folle furieuse. En été et à l'automne, lorsque les bisons formaient de grands troupeaux, on ne permettait jamais à un Indien ou un petit groupe de chasser seul. Il fallait que chaque famille puisse se ravitailler en viande et en peau avant que les bisons effrayés ne se soient mis à fuir et se dérobent au loin. Les chasses communautaires étaient soigneusement organisées. Les chefs civils décidaient de l'instant où il faudrait cerner les bisons et désignaient un de ces groupes spéciaux appelés « Société de soldats » pour assurer la police de la chasse. Les membres de cette confrérie exerçaient leurs autorités pour que chaque chasseur ait une des chances équivalentes. S'il surprenait un individu en train de chasser un bison au moment interdit, il lui administrait une correction immédiate à grands coups de fouet, si bien que souvent le malheureux ne pouvait pratiquement plus marcher. Ces hommes prenaient à la fois en considération la gravité de l'offense, les dommages causés aux intérêts de la tribu et surtout le comportement de celui qui dérogeait aux règles. Il leur arrivait de couper une oreille à son cheval ou de le tuer, de détruire les armes du chasseur, de découper en morceaux son tipi et même de réduire ses perches en preuves du bois. Bien des aspects de la culture des Indiens des plaines étaient étroitement liés à leur croyance en des forces surnaturelles qui régissaient le cours du monde. Et la musique n'échappait pas à la règle. On jouait, seul ou au cours des danses, d'instruments semblables à ceux qui sont présentés, des tambours, des flûtes. Et pour chaque occasion, l'Indien avait une musique appropriée. Chaque jeune homme possédait une chanson personnelle dont, selon lui, les notes et les paroles lui étaient transmises par son esprit titulaire ayant la forme d'un loup errant, d'un arbre, d'une fleur ou d'un autre animal. Il se retirait dans des lieux sauvages et jeûnait jusqu'à ce que l'air lui eût communiqué au cours d'un rêve. Parfois, il s'agissait d'un simple aveu confidentiel, comme dans ce chant cri. Devant moi, il n'y a que la beauté. Et derrière moi, j'ai laissé un sillage de beauté. À certains stades de sa vie, il reprenait son air pour renouer le contact avec les puissances mystérieuses qu'il avait vues en songe. On attribuait la chance qu'un individu avait dans la vie à son champ personnel. Les autres hommes lui offraient éventuellement un foyer de pipe de valeur ou quelques chevaux en échange du droit de reproduire ses vers. À son enfant, la mère chantait une douce berceuse et la jeune Cheyenne, amoureuse, répondait au chant de son soupirant par ce refrain. « Mets tes bras autour de moi, je ne regarde pas. » Contre les importuns, le compositeur lançait des poèmes satiriques et les guerriers avaient leur propre chant. Voici par exemple les paroles d'une chanson réservée aux membres de la société Kid Fox, les renards chez les Sioux. Je suis un renard et donc censé mourir. S'il existe des tâches difficiles, s'il existe des besognes dangereuses, à moi de les accomplir. Dans les cérémonies de groupe, les chants et les danses s'accompagnaient avec des instruments d'une grande diversité. Pour souligner le rythme de leurs pas, les danseurs utilisaient des hochets ou frappaient sur des tambours. Les hochets se fabriquaient à partir de gourdes ou de carapaces de tortue remplies de petits cailloux ou de graines. Le tambour était fait d'une planchette de bois plongée dans de l'eau chaude jusqu'à pouvoir être courbée en cercle. On tendait alors la peau du tambour à l'aide de lacets de cuir cru. Certains Indiens des plaines possédaient des tambours à une seule peau, comme un tambourin. Chez d'autres, la peau était tendue des deux côtés, comme pour le tambour ute. D'autres tribus utilisaient des instruments qui produisaient un grincement de râpe. Pour amplifier les vibrations, les hutes grattaient un morceau d'andouillé de watipi sur une planchette garnie d'encoches et maintenue au-dessus d'un panier retourné. Les sifflets et les flûtes étaient les seuls instruments avant des Indiens. Les guerriers utilisaient des sifflets fabriqués avec l'os de l'aigle, symbole de courage. Les flûtes, qui comportaient des trous pour les doigts, étaient creusées dans la longueur d'un bois, au fil droit, comme celui du saule ou du sureau. Le contact avec les Blancs permit aux Indiens de se familiariser avec les notations musicales, ainsi qu'avec les cuivres et les instruments à cordes. Les Apaches fabriquaient leurs propres violons, et pour cela, ils étiraient deux tendons de cerf au-dessus d'une caisse de résonance en bois, qui était évidée et qui faisait 45 cm de long. Avec un court archet en crin de cheval, ils évoquaient le son inattendu du violon. Les sociétés de soldats étaient particulières aux Indiens des plaines. Les membres de ces confréries étaient amenés à se rassembler à la suite d'expériences guerrières communes et possédaient leurs secrets et leurs cérémonies propres. Ils faisaient la police non seulement au cours des chasses, mais aussi dans tout le campement et lors des déplacements. Ils représentaient les qualités suprêmes des combattants. Dans les bandes des Cheyennes, les principaux chefs de guerre cumulaient cette fonction avec celle de chef d'une société de soldats. La tribu des Cheyennes en comptait six. Les Renards, les Watipis, les Boucliers Rouges, les Chiens, les Cordes d'Arc et les Chiens Fous. Les Chiens formaient une bande à part dans la tribu des Cheyennes, mais les autres confréries possédaient des organisations et des fonctions similaires et ne différaient que par les coutumes des cérémonies, les chants et les danses. Pour leurs fêtes, quatre de ces sociétés recouraient à de jeunes filles de bonne famille comme demoiselles d'honneur, un rôle qui tenait de la mascotte et de la dame patronesse. Leur présence au sein de la société de soldats honorait les notions tribales de la féminité. De toutes ces confréries, la plus aristocratique et la plus exclusivement militaire était celle qui, chez les Kiowa, rassemblait les Kainsenkos, ou la société des dix plus braves, les vrais chiens. Ils avaient fait le vœu de mener toutes les charges, de combattre à l'avant-garde des troupes lors des batailles et de gagner ou de périr. Trois de ses membres sur dix portaient des écharpes de tissu rouge. Six d'entre eux avaient droit à des écharpes rouges en peau de Watipi, et le chef à une large écharpe, également en peau de Watipi, qui pendait jusqu'à terre. Dans un combat à mort, ce chef devait se clouer au sol par son écharpe à l'aide d'une flèche spéciale et rester sur les lieux tandis que les combattants tourbillonnaient alentour. Il ne se détachait qu'à l'instant de la victoire ou si tout espoir se trouvait perdu lorsque un de ses confrères venait le libérer. Sitting Bear, chef Kiowa qui donna 250 de ses chevaux en 1840 lors du Grand Conseil de la Plaie, portait l'écharpe noire et l'arborait encore en 1870. Ses cheveux grisonnaient, mais il se tenait droit et fier, et les autres Kiowa voyaient en lui le plus brave des guerriers vivants. Les principes d'autorité et de législation variaient beaucoup parmi les Indiens des plaines. Chez les Utes du Nord, du Colorado, on considérait le vol, l'adultère et même le meurtre comme des affaires familiales d'ordre privé. Si un vol était commis au détriment d'un autre Ute, celui-ci allait se plaindre à quelques parents âgés du coupable. L'objet était rendu à son propriétaire et le coupable châtié à coups de fouet par ses proches. En cas d'adultère, le mari s'emparait du cheval de son rival. Si le fautif était un homme, sa femme pouvait alors corriger sa rivale ou lui dérober ses biens. Pour un meurtre, la famille obtenait des réparations ou se vengeait en tuant à son tour. Edwin Denig, un négociant en fourrure opérant sur le Haut-Missouri au milieu du 19e siècle, put observer les habitudes des crocs en cas de litige. Les discordes et les petits larcins se règlent par des injures, note-t-il. À ce jeu, les hommes et les femmes sont aussi forts les uns que les autres. et leur langage leur fournit des surnoms merveilleux qu'ils se jettent à la figure. Ces expressions, pour la plupart, permettent de comparer le coupable, son visage et sa personne, aux plus dégoûtantes créatures de la nature, et même à des monstres inconnus de ce monde. Des actes criminels ou des discussions d'intérêts pouvaient dresser des bandes entières les unes contre les autres. Alors que le problème était soluble en y mettant un peu du sien. Denig a écrit « La bande de la Platte se dresse parfois contre celle de Yellowstone. Un homme voyageant d'un camp à l'autre durant un an ou deux n'entend que menaces, médisances et défis. Quelqu'un qui ne les connaît pas se dit qu'en cas de rencontre, les deux bandes s'engageraient dans une lutte farouche. Et pourtant, après toutes ces injures, si d'aventure ils entrent en contact, ces Indiens sont les plus pacifiques du monde et ils restent en bons termes pendant des mois. Cependant, il suffit qu'ils se séparent et qu'il y ait entre eux un cours d'eau les empêchant de se faire la moindre mal pour que la guerre commence. D'une rive à l'autre, on se jette de terribles injures accompagnées de pierres qui d'ailleurs n'atteignent même pas le milieu de la rivière. Et ensuite, chaque bande s'en va dans une direction différente tout en assurant qu'elle se vengera. Si tous les Indiens des plaines avaient des chefs de guerre, seuls quelques-uns possédaient un gouvernement civil. Les Crocs et les Comanches, pour ne citer qu'eux, ne disposaient que d'une organisation tribale rudimentaire. Par contre, des tribus comme celle des Cheyennes ou des Sioux avaient mis au point une méthode de gouvernement aux règles strictes, non dénuées de formalisme. Le conseil tribal des Cheyennes était composé de 44 chefs civils. En fait, un guerrier qui se voyait désigné ou élu comme membre de ce conseil était censé renoncer à ses fonctions militaires tout en pouvant cependant demeurer membre de la confrérie dont il faisait partie. Les décisions du conseil civil étaient souveraines. Chez ces peuplades belliqueuses, les pouvoirs militaires étaient nettement séparés des pouvoirs civils et le gouvernement civil avait normalement la suprématie. Si la guerre et les honneurs qui en résultaient prenaient aux yeux des Cheyennes une importance vitale, ces Indiens n'ignoraient pas, semble-t-il, que l'équilibre et l'unité tribale étaient essentiels. Pour faciliter l'union, ils organisaient leurs tribus selon une hiérarchie complexe. Leur nation était constituée de 10 bandes principales. Il s'agissait en effet d'une société de nomades, vivant d'une économie fondée sur la chasse, et le besoin de disposer de pâturages les incitait à se déplacer en groupes relativement restreints, dont chacun comptait tout au plus quelques centaines de personnes. La loyauté entre membres d'une même bande avait son importance, et chacun connaissait son voisin. L'indication de la bande à laquelle il appartenait et ses allégeances tribales permettait d'identifier un Cheyenne. On disait par exemple un Cheyenne Homicis ou un Cheyenne Ewatantkuju. Les bandes ne se rassemblaient que rarement, sauf en été, à l'occasion de cérémonies spéciales. Cependant, une fois réunies, elles collaboraient selon un système politique aussi équitable et parfaitement harmonieux que celui du pouvoir fédéral installé à Washington. Chaque bande Cheyenne déléguait 4 chefs au conseil. On y comptait aussi les 4 membres additionnels qui n'étaient autres que les chefs principaux de l'ensemble de la tribu. Ces 4 personnalités prenaient les décisions ultimes. Leur recrutement résultait soit d'une sélection s'exerçant parmi les chefs de bande, soit de nominations effectuées par les titulaires du groupe suprême prêts à prendre leur retraite. Les membres du conseil occupaient généralement leur poste pendant 10 ans, et choisissaient leur propre successeur. Il arrivait que le corps ne se rencontrât qu'annuellement, au moment où les bandes se trouvaient rassemblées, mais cette organisation maintenait la cohésion de la tribu, du point de vue politique et gouvernemental. Même si les bandes étaient appelées à s'éparpiller dans les coins les plus reculés du domaine des Cheyennes pendant la majeure partie de l'année. Le comité constituait donc un élément essentiel sur le plan de la vitalité et de la stabilité dans un monde d'errance continuelle et de nomadisme. Le délégué au conseil prenait dans sa propre bande le titre de chef civil. Il était alors considéré comme le père et le protecteur de tous les membres de son clan. D'humeur égale, d'un naturel aimable, énergique, sagace, brave, bon et généreux, tel était le portrait type du chef civil. Les quatre chefs suprêmes chargés de la tribu étaient censés faire preuve d'encore plus de magnanimité. Peu de temps après être devenu un chef civil, Ike Black and Wolf vint trouver un Indien du nom de Pawnee, qu'une société de guerriers avait dépouillé et bâti pour le punir d'une offense. C'est la première fois depuis que je suis grand chef qu'il m'est donné de connaître un cas aussi lamentable, lui dit-il. À présent, je vais t'aider à en sortir. Il le sermonna, lui donna des vêtements, un cheval, une peau de puma décorée et un revolver à six coups. Un chef de tribu ne devait pas, en principe, faire preuve de jalousie. Si l'épouse d'un membre ordinaire de la bande s'enfuyait avec un autre homme, le lésé pouvait accepter un dédommagement. Inversement, si une histoire identique arrivait au chef de tribu, il refusait les compensations et essayait de faire preuve de grandeur d'âme, excluant du même coup toute idée de vengeance. « Un chien a sali mon tipi, » disait-il, en faisant allusion au coupable et en minimisant l'offense. À ce propos, George Crinell, un spécialiste des Cheyennes, dit « Un bon chef se consacrait corps et âme à son peuple. Un tel sentiment d'entraide à l'égard des autres n'est pas sans influence sur la mentalité de l'intéressé. Après un certain temps, la bonne volonté qui l'animait transparaissait dans son comportement. Vrais amis, délicieux compagnons, conseillers avisés, les chefs faisaient preuve à l'égard de leurs concitoyens de sentiments que nous devrions tous imiter. Les titulaires du conseil tribal étaient des membres très importants et leur comportement servait d'exemple aux autres Indiens de la tribu. Non seulement les chefs, mais les personnes d'un certain âge étaient respectées par les Cheyennes pour leur sagesse. Essentiellement conservateurs, les gens de ce peuple appréciaient le savoir et l'expérience des aînés. Si l'un d'eux venait à mourir, il était pleuré avec sincérité. Quel que soit son sexe, le mort était habillé de ses plus beaux vêtements, enveloppé dans une couverture en tissu ou en peau et placé dans un arbre sur une plateforme funéraire ou couché sur le sol et recouvert de blocs de pierre. Parfois, on sacrifiait son cheval préféré sur les lieux de sépulture. On lui laissait ses armes, sa pipe et les objets qu'il chérissait. La femme était accompagnée dans de l'au-delà par ses instruments de cuisine, son bâton à fouiller la terre et quelquefois par ses outils pour travailler la peau. Les femmes en deuil, et en particulier la mère ou la femme d'un mort, se coupaient les cheveux. Dans le cas d'un combattant tombé au cours d'une bataille ou mort de ses blessures, elle s'entaillait le front et les jambes jusqu'à ce que le sang coulât à flot. Certaines femmes se mutilaient en se coupant un doigt. La croyance cheyenne voulait que, par-delà la mort, la culpabilité ne constitua pas un fardeau. Selon leur foi, l'âme du disparu remontait une route suspendue, la voie lactée, jusqu'à la demeure de Hemamahuiho, le sage d'en haut, pour y connaître la véritable vie des Cheyennes et retrouver tous ceux que la mort chérissait et qui les avaient précédés. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retrouverons nos Indiens des plaines la semaine prochaine. En attendant, je vais dire un grand merci à Nico qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, je vais dire comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.